Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur l'évangile du premier dimanche de l'Avent. Nous sommes à la fin du ministère public de Jésus. Il est entré triomphalement à Jérusalem où l'on a acclamé avec les rameaux. Et il vient de faire une méditation sur le temple en annonçant sa destruction. Une petite précision, je rajoute les trois versets qui sont omis dans le texte liturgique, les versets 29 à 32, que du coup vous n'entendrez pas dimanche. Avant de vous lire le texte, je vous propose un petit exercice, c'est au cours de la lecture d'être attentif aux réactions que le texte suscite en vous. Ainsi, après avoir écouté le texte, vous prendrez 30 secondes pour noter les premières impressions que ce texte a laissées dans votre cœur. Je commence la lecture. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Et il leur dit cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Fin de la lecture. Je vous invite maintenant à faire une petite pause dans l'enregistrement et de noter pendant 30 secondes les réactions que ce texte a suscitées en vous. Voilà, vous avez eu le temps de noter vos réactions. Et je reprends le commentaire. Jésus évoque deux types de réactions face aux signes qui seront observés. Les signes, c'est cet ébranlement de la création, la puissance des cieux seront ébranlées, dans le soleil, la lune et les étoiles, sur terre il y aura des signes, le fracas de la mer et des flots. Tout cela provoque la peur. Tout cela provoque la peur chez les nations, qui constatent face à ces événements un ébranlement de la création, même on pourrait dire un processus de décréation. Le soleil, la lune, les étoiles, c'est ce qui semblait le plus stable dans l'Antiquité. Et voilà que cela est ébranlé, cela ne tient plus bon. Pour les nations, donc, ces signes sont ceux de la catastrophe. Mais voilà que Jésus annonce que ce qui suit ces signes, ce n'est pas l'anéantissement, c'est la venue du Fils de l'homme sur les nuées avec puissance et grande gloire. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Du coup, il invite ses disciples à réagir complètement à l'opposé des nations. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Les signes qui faisaient craindre l'anéantissement aux nations sont reçus avec espérance par les disciples de Jésus, car ils annoncent sa venue toute proche. Ce n'est pas l'anéantissement qui vient, c'est le règne de Dieu qui vient. On croyait que l'univers allait disparaître parce que les puissances des cieux sont ébranlées, mais du ciel, en fait, vient le Fils de l'homme dans sa puissance et dans sa gloire. Peut-être faut-il faire une pause ici pour rappeler ce que signifie la venue du Fils de l'homme dans la gloire. Premièrement, il met fin à la liberté d'exercice des puissances du mal. Voilà que les puissances des ténèbres de la mort n'ont plus la liberté de se déchaîner sur le monde. L'autorité du prince de la vie met fin à l'autorité du prince des ténèbres sur le monde. Deuxièmement, la venue glorieuse du Fils de l'homme, conformément d'ailleurs à ce qui était annoncé dans le livre de Daniel, correspond à la résurrection de la chair. Voilà que l'homme qui avait été créé corps et âme, mais que le péché avait séparé, provoquant la destruction du corps, voilà que l'être humain va retrouver sa plénitude, corps et âme, avec un corps qui ne connaîtra plus la corruption. Ce corps qui porte notre histoire, ce corps par lequel nous aimons et par lequel nous sommes aimés, n'est pas perdu, n'est pas disparu, il est partie prenante de la vie éternelle. Le corps glorieux du Fils de l'homme, du Christ Jésus, ressuscité, est le gage de notre propre résurrection. Jésus n'est ressuscité que pour que nous ressuscitions à sa suite. C'est aussi cela qu'annonce la venue glorieuse du Fils de l'homme. Souvenez-vous de ce que dit saint Irénée, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Et l'on nous dit que le Fils de l'homme vient avec puissance et grande gloire. La grande gloire, c'est justement de donner à l'homme de participer à sa propre vie. Et c'est le troisième point qu'apporte cette venue glorieuse du Fils de l'homme, c'est l'établissement du règne de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui désormais dans les cœurs règne les relations, relations à soi-même, relations aux autres, relations au monde, relations à Dieu. Alors que nos relations pouvaient être marquées par la peur, par l'incompréhension, par l'égoïsme, voilà que désormais c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui fait la vérité entre nous, qui fait la communion entre nous, qui nous donne la charité, charité même de Dieu, à s'offrir mutuellement les uns et les autres et à faire monter en action de grâce devant Dieu. Le règne de Dieu, c'est l'élan de l'amour de Dieu qui est vécu du plus profond de nos cœurs. Il n'est plus cet élan quelque chose que nous observerions de loin, il est l'élan même qui nous anime et que nous nous offrons mutuellement. C'est l'élan de joie que connaissait déjà saint Séraphin de Sarov, lui qui, quand il voyait un visiteur qui venait le consulter, s'exclamait « Ma joie, Christ est ressuscité !» C'est-à-dire qu'en voyant celui qui venait à lui, il reconnaissait en lui la gloire, la puissance, la présence du Christ ressuscité, et la présence de cet homme devant lui était véritablement sa joie la plus profonde. Voilà l'élan qui pourra nous animer, qui pourra régner dans nos cœurs à la venue glorieuse du Fils de l'homme. Et donc, bien loin d'un anéantissement qui serait la fin de toute chose, les signes qui nous sont donnés à voir nous fortifient dans l'espérance « Le Seigneur vient, la plénitude de la vie vient, la victoire du Christ va être manifestée universellement ». La parole du Christ nous fait donc en cette première partie passer de la peur à l'espérance joyeuse. La deuxième partie du texte commence avec l'avertissement « Tenez-vous sur vos gardes ». C'est un appel à la veille. Un appel à la veille avec d'un côté le danger qui est à éviter et de l'autre le bien qui est à obtenir. Le danger qui est à éviter, c'est que notre cœur ne s'alourdisse avec les soucis de la vie et parfois du coup le désir de s'échapper de ces soucis par la beuverie, par l'ivresse qui nous fait oublier notre triste condition un moment. En cherchant à oublier les tristes conditions de notre vie ordinaire par le moyen de l'ivresse, en fait nous perdons de vue la vie véritable à laquelle nous sommes appelés par le Seigneur. Il y a le risque d'oublier que nous sommes faits pour le Seigneur qui vient, pour aller partager sa propre vie. Et si l'homme, lui qui est fait pour être entre terre et ciel, n'est tourné que vers la terre, alors cette venue du Fils de l'homme arrivera pour lui comme à l'improviste, comme un filet, il s'abattra. Cette venue du Fils de l'homme sera pour lui comme un piège, au lieu d'être une occasion de salut. Au contraire, l'appel à la veille doit nous rendre disponibles à ce salut, disposés à ce salut. Et la clé est la suivante. Priez en tout temps. C'est la clé qui permettra, premièrement, d'échapper à tout ce qui doit arriver, donc à tout ce qui ressemble à un anéantissement, et aussi de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Je voudrais insister ici sur le terme « se tenir debout ». Il porte en effet deux connotations. La position debout, c'est la position qui s'oppose à la position couchée du mort, le mort allongé dans son tombeau. La position debout, c'est la position de l'homme ressuscité. Et donc, il y a ici une annonce de cette vie de celui qui est demeuré dans la prière. Il se tiendra debout devant le Fils de l'homme. Il recevra pleinement cette grâce de la résurrection. Mais se tenir debout, c'est aussi un signe de la dignité qui est conférée, de la dignité qui est reçue, de la dignité qui est vécue. On se souviendra de la parole de l'archange Raphaël qui se révèle à Tobie en disant « Je suis Raphaël, l'un des sept anges qui se tiennent devant Dieu », c'est-à-dire qui se tiennent debout devant Dieu. Il faut se souvenir certainement des cérémoniaux de l'Antiquité où l'on allait se prosterner devant celui qui avait autorité, lequel pouvait honorer la personne en l'autorisant à se relever. Il nous est donc donné cette clé extraordinaire qui nous permet de nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alors quelle est cette clé? Je le disais, c'est cette prière en tout temps. C'est par elle que nous sera conférée la force d'échapper à ce qui doit arriver et de nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut dire de prier en tout temps? Parce que matériellement, nous savons que ce n'est pas possible, et ne serait-ce que parce qu'il faut bien que je dorme à un moment. Eh bien, la prière en tout temps, c'est une façon de vivre. Ce n'est pas simplement le fait de rester à genoux sur mon prie-Dieu devant le Saint-Sacrement. C'est une façon de vivre en présence de Dieu, le cœur tourné vers Dieu. Cela signifie évidemment des moments, on va dire, de prière intense, où je suis tout tourné vers le Seigneur, mais ça signifie, dans les choses ordinaires, de consacrer ce que je fais au Seigneur. C'est, avant de me mettre à travailler, d'avoir cette pensée tournée vers Dieu, « Seigneur, avec toi, après avoir terminé, Seigneur, je t'en remets la fécondité ». Et je suis, du coup, pendant mon travail, concentré sur ce que j'ai à faire. Mais voilà que, avant de m'y mettre, et une fois ayant terminé, j'ai eu une pensée vers le Seigneur pour me tourner vers lui. C'est, par exemple, encore au moment du coucher, de confier cette charge de la prière à mon ange gardien. Voilà. Alors que je prends mon repos de ce jour, prie pour moi, le Seigneur notre Dieu. Garde-moi dans la prière devant le Seigneur. Au terme de notre enseignement, retenons peut-être deux choses en particulier. La première, c'est cette affirmation de l'espérance qui est la nôtre. Le Seigneur vient pour établir son règne, et c'est cela que nous sommes appelés à discerner. Et deuxièmement, le Seigneur nous donne la clé de cette prière continuelle pour échapper à l'anéantissement, pour échapper à l'ébranlement du monde et au contraire nous tenir debout devant le Fils de l'homme qui établit le règne de Dieu. Je vous souhaite de bons échanges.